France Inter. Aujourd'hui, dans l'émission, deux poètes qui ont en commun de faire de l'écriture une expérience physique, concrète, où le langage devient à la fois un outil de connaissance et une manière de tenir debout dans le monde.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, au livre, etc., Lilia Hassel.
Notre première invitée est romancière, essayiste et docteur en littérature. Julia Kerninon publie Coquille aux éditions Le Castor Astral. Dans ce texte, elle explore les coulisses de sa vocation, cette activité respectable, commencée dès l'enfance sur la machine à écrire de sa mère. À travers une suite de fragments très incarnés, elle raconte ce que signifie écrire au cœur même de la vie, la discipline quotidienne, la peur de ne plus savoir faire, les livres à inventer phrase après phrase. Elle évoque aussi la manière dont la maternité transforme le travail d'écrire, ce cercle de feu qui impose une structure nouvelle au temps et à la pensée. Peu à peu se dessine une vision très concrète de la littérature, non pas un geste sacralisé, mais une pratique obstinée. Face à elle, nous accueillons un agitateur de littérature qui malaxe la langue jusqu'à l'os. Lauréat du prix Apollinaire Découverte et du prix de la vocation pour sa poésie, Victor Malzac signe Lessive, également aux éditions Le Castor Astral. C'est une voix qui démarre dans le noir, un récit organique et obsédant où la naissance est vécue comme une explosion, un arrachement. Entre la figure d'un oncle disparu et le corps d'une mère omniprésente, il traque les traces d'une identité façonnée par ce qu'on appelle la France profonde, les rituels de la nourriture et une culpabilité viscérale, celle d'être né comme un veau dans un monde saturé de bruit et de déchets. Deux livres très différents donc, l'un qui observe patiemment la fabrique des phrases, l'autre qui les lance comme des éclats, mais tous deux posent au fond la même question, pourquoi écrit-on ? Vous écoutez Au Livre, etc., c'est parti.
Au Livre, etc.
Julia Kerninon, Victor Malzac, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors j'aimerais qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet, puisque j'ai terminé mon introduction là-dessus. Pourquoi écrivez-vous ? Julia Kerninon, je cite votre livre. « Quand on me pose la question, je réponds que j'ai toujours voulu être écrivain, ce qui revient à dire qu'à bientôt 40 ans, je vis selon l'ambition d'une petite fille inconsciente. » Vous avez toujours voulu être écrivain, mais pourquoi ?
Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul. On n'a pas besoin de convaincre d'autres personnes de le faire avec nous. Parce que les livres m'ont toujours paru la chose la plus excitante. Il y en a tellement. Quand les gens disent qu'ils lisent pas beaucoup, il y a tellement de possibilités. On peut lire même des livres de cuisine, c'est merveilleux. Et je crois que je suis très excitée par la syntaxe. Les mots en soi m'excitent beaucoup, quoi. Les déplacer, faire des choses. Le soir, quand je m'endors, c'est ce que je raconte dans le livre. Je fais des phrases comme je compterais les moutons, quoi. Mais aussi, ça a commencé tellement petite que je peux pas. Il y a des écrivains qui peuvent dire le moment où ils ont décidé de le faire. Et moi, j'avoue que c'est une histoire un peu banale, mais c'est tellement ancien que je peux même pas séparer qui je suis de cette activité. C'est vraiment la colonne vertébrale qui a organisé toute ma vie.
Et vous, Victor Malzac, pourquoi écrivez-vous ?
Alors, je rejoins Julia Kerninon, notamment sur cette histoire de plaisir d'écrire, de jouissance tirée du texte, en fait. Je ressens beaucoup ça, mais dans mon cas, la littérature est arrivée plus tard dans ma vie. Elle est arrivée quand j'avais 18 ans, principalement parce que j'avais d'autres occupations et aussi parce que je m'étais interdit de lire, pour des raisons sociologiques, mais pas que, parce que Lire là où je grandissais, c'était pas forcément quelque chose d'admis ou de facile.
C'est fort de dire « je m'étais interdit de lire ».
Oui, oui, disons que c'était un sentiment de « ça ne me concernait pas et je n'avais pas le droit ». En fait. Et puis, je ne comprenais pas. Je trouvais ça ennuyeux aussi. C'est aussi un rapport au temps spécifique qui, s'il n'a pas été inculqué, voilà, ça, tout est une question de capital culturel, tout simplement.
Vous disiez quoi, que c'était une activité bourgeoise ?
Non, j'avais pas ces mots-là, évidemment pas, mais je trouvais ça ennuyeux et je trouvais ça difficile. Et surtout, le fait de s'y essayer était mal perçu dans mon entourage, pas par mes parents, mais au contraire, les parents, ils aiment bien que les jeunes lisent, mais il y a aussi une injonction à lire, que je ne ressentais pas, mais qui existe. Non, c'est plus autour, les potes, quoi. Moi, je faisais du skate, de la boxe, je fumais des joints, je faisais des trucs. Je faisais autre chose que lire. Et ce que lire n'était pas une activité d'adolescent.
Et qu'est-ce qui s'est passé à 18 ans
pour et en fait, j'ai rencontré un poète. En fait, je ne l'ai pas rencontré puisqu'il est décédé. C'était le père d'un ami qui était poète, et j'ai rencontré son éditeur. Et j'ai compris, alors l'éditeur m'a parlé avec passion du père de mon ami, et ça m'a ému, je me suis dit qu'on pouvait en effet déployer de l'énergie dans un texte, et de l'énergie dans tous les sens, quoi, physique, sportif, politique, expérimental, on pouvait tout faire, quoi. Donc c'est à partir de là que je me suis autorisé et donc que j'ai commencé à lire et à y prendre plaisir en me disant que les morts avaient été vivants.
C'est intéressant cette relation avec, avec un éditeur, le fait que l'écriture soit née de la parole. Julia Carninon, vous, votre éditrice aussi, joue une grande place dans votre travail. C'est elle qui préface votre livre. Comment est née cette relation avec Sylvie Gracia, puisqu'il faut la nommer quand même, c'est pas un personnage du livre.
Ouais. Bah parce que le Casseur Astral demande qu'on propose quelqu'un pour la préface et je ne savais pas à qui demander. Et en fait, bah évidemment, qui est-ce qui connaît le mieux mon travail? C'est Sylvie Gracia. Mais c'est ce qu'elle raconte dans la préface. On s'est rencontrés quand je lui ai envoyé le manuscrit de mon premier roman, Buvard, en 2013-2014. Et donc on est quasiment 15 ans après. Et c'est une relation qui ressemble à aucune autre. Parce que c'est pas comme... Il y a quelque chose de familial, il y a quelque chose d'amical, mais c'est aussi évidemment une relation professionnelle. On fait les livres ensemble année après année et donc on doit réussir à se mettre d'accord sur le livre qu'on essaye de faire. Donc c'est vraiment comme si on était deux machines et on ajuste vraiment nos instruments pour réussir à faire le livre. Elle sait des choses sur mon écriture que personne d'autre ne peut savoir.
Et c'est plus que professionnel, puisqu'elle termine sa préface en disant « De toute façon, même quand je ne serai plus éditrice, je serai toujours là ».
Oui, mais parce qu'on est toutes les deux timides et sauvages, donc on a mis longtemps en fait à oser être plus tendre, peut-être. Mais c'est une des relations les plus incroyables que j'ai dans ma vie, de pouvoir... moi, le travail, ça me passionne. Donc, trouver quelqu'un avec qui travailler, c'est incroyable.
On en reparlera. Victor Malzac, est-ce que vous accepteriez de nous lire un extrait de votre livre? Parce que j'ai vraiment envie qu'on entende votre langue assez vite. Et puis, c'est en lien avec ce qu'on vient de se dire.
Ben avec plaisir. Alors, je vais lire un texte qui s'appelle « La bassine ». Avant, je n'étais rien, presque rien. Je n'étais qu'un tas de ferraille et de sperme. Je n'étais qu'une pompe et des kilomètres de tubes noirs qui s'agglutinaient jusqu'à faire un terril. Et maintenant... Je venais de naître comme un veau. Je venais de sortir d'un coup, d'un seul coup. Mon corps venait de sortir du pauvre corps, étrangle de ma mère. Et maintenant, j'allais sentir cette odeur tenace de la vie, payer ma dette envers ma mère, mon oncle et tous les veaux de l'univers.
Merci beaucoup. On pourrait vous écouter des heures. d'où vous est venue la nécessité d'écrire ce livre-là, Lessive, Victor Malzac?
Alors, Lessive, il part d'un fait biographique, quoi, du décès d'un oncle, quand j'étais dans le ventre de ma mère. Et souvent, régulièrement, ma mère me dit que je l'ai aidé à porter le deuil. Et donc, ses larmes passaient dans le corps. Et donc, j'ai entendu les larmes de ma mère. Alors, ça m'avait beaucoup ému qu'elle me dise ça. Et la deuxième chose qu'elle m'a dit, parce que c'est un deuil domestique, c'est un accident domestique, c'est que ça sentait bon. La scène de l'oncle, du décès de l'oncle, en fait, avait lieu dans une baignoire et il y avait l'odeur de la lessive, enfin du savon, qui faisait que c'était une fin, mais que ça sentait bon. Et que ce paradoxe-là, difficile, relaté par ma mère, je tenais à le faire vivre aussi parce que j'avais beaucoup parlé de mon père dans d'autres livres, enfin de mon père métaphorique, des pères, et je voulais un peu donner place à ma mère et à ma culpabilité aussi envers ma mère en tant que représentant du genre masculin en partie.
C'est vrai que vos deux livres dressent des liens, enfin dessinent des liens entre vous et vos mères, ou alors la place de la maternité, comme souvent chez vous, Julia Carninon. Vous, quel était le projet derrière ce livre, Coquille? C'est aussi en lien avec la maternité.
Oui, en fait, au départ, je voulais faire un livre beaucoup plus technique. Je voulais faire un manuel d'écriture. Moi, la technique d'écriture, c'est un truc qui me passionne, que j'ai étudié en partie dans mes études. Je me suis toujours demandé comment les écrivains écrivaient. Et c'est une question qu'on nous pose à nous, les écrivains. On croise des gens qui ont envie d'écrire et puis qui disent « Mais comment vous faites ?» Et les écrivains, des fois, ils disent, en tout cas, ça a été une tradition pendant longtemps, de dire « Ah, oh, je peux pas expliquer, c'est l'inspiration, gna gna gna. » Et moi, je suis quelqu'un de très prosaïque. Je pense que c'est explicable comme plein d'autres choses. Ça veut pas dire que c'est explicable au sens d'un manuel de scénario ou quelque chose comme ça, mais il y a des petites techniques. Moi-même, j'ai appris des petites techniques en lisant chez des auteurs des choses que tu comprends petit à petit, comme ça. Et donc, je voulais écrire là-dessus. Mais en fait, en écrivant, ben, une fois de plus, la vie quotidienne est rentrée dedans. Et puis, c'est aussi... C'est pas tellement que ça a débordé. C'est que En tant que femme qui fait de la littérature, vous devez le savoir aussi, c'est assez nouveau que nous, les femmes, on fasse de la littérature, ou qu'on soit aussi nombreuses à le faire. Et moi, j'ai très envie, ces dernières années, politiquement, de faire rentrer mon corps de femme dans la littérature. J'ai pas envie de faire de la littérature en imitant les méthodes des hommes. J'ai envie de trouver une façon de faire une littérature qui soit féminine, non pas parce qu'elle traite de sujets féminins, mais de faire que la maternité ne soit pas qu'un sujet féminin, peut-être. Et le mythe de l'écrivain, c'était ce que j'ai étudié pendant mon doctorat, la légende de l'écrivain, c'est la légende romantique. Et donc c'est vraiment cet homme qui fume et qui boit et puis qui s'occupe de rien d'autre que de son art. Or, moi, je suis une mère de famille avec deux enfants, donc je considère que je ne peux pas me comporter comme ça. J'ai envie d'être un aussi bon écrivain que possible. Je n'ai pas envie pour autant de maltraiter mes enfants. Et donc, nécessairement, ça implique de réfléchir à comment est-ce que je fais pour faire de la littérature et m'occuper de mes enfants, ce qui est quelque chose qui a été décrit par la légende littéraire comme impossible. La maternité serait contradictoire avec l'art et les femmes seraient incapables d'en faire parce qu'elles sont trop, quoi, émotionnelles ou liées. Et moi, j'ai découvert ces dernières années que c'était des conneries de raconter ça, que c'était pas du tout, que ça n'empêchait en rien, qu'en fait, on pouvait parfaitement être sur les deux terrains. Et donc, je trouvais ça intéressant de faire rentrer ça dans les textes, de rappeler que l'écriture, tous les livres qu'on lit ont été écrits par des êtres humains comme nous, et donc ils l'ont bien fait parmi leurs autres activités, y compris domestiques.
Victor Malzac, la littérature est politique selon vous ?
Oui, la quasi-totalité des activités que nous faisons sont politiques, mais la littérature a ceci de particulier que nous ne pouvons pas pas nous engager et que le choix de retrait est en soi une posture, et d'ailleurs Julia Carninon vient de le dire aussi, c'est-à-dire le retrait de la vie familiale et domestique est un trait typique de la plupart des écrivains masculins qui ont par ailleurs souvent présenté, enfin, je ne vais pas parler à votre place, mais la littérature comme un accouchement, ou, pas besoin d'avoir des enfants puisqu'on enfante nos livres. Alors, personnellement, je n'aime pas du tout cette vision des choses non plus. Et tout simplement politique, parce que c'est un acte de communication et donc de connexion aussi avec son public, et donc de prise de position sur un espace particulier. Ce qui ne signifie pas, il ne faut pas confondre non plus le politique et le revers idéologique. On ne peut pas se contenter simplement de répéter des idées. Sinon, le travail d'écriture n'a aucun intérêt. D'autres le feraient bien mieux que nous. Et là, encore une fois, je rejoins Julia Carninon, dont j'aime beaucoup le travail, sur l'idée qu'il y a des techniques toutes simples aussi, qu'il faut peut-être casser cette idée que la littérature est sacrée ou supérieure et qu'elle tombe du ciel. Comme ça.
C'est pour ça que je vous posais la question du politique, parce que c'est justement ce qui n'est pas sacré aussi. Politique, c'est ce qui concerne tout le monde.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, il y a quelque chose de tout à fait simple, de délibératif presque. Que devons-nous faire ? Que disons-nous et que faut-il faire pour qu'il se passe autre chose ? Ce qui ne signifie pas du tout être pour ou contre quelque chose ou juste relater des faits. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est que devons-nous faire ? Qu'est-ce qu'on peut devenir d'autre qui serait mieux pour nous ? Moi, je le vois comme ça, personnellement.
Alors vous avez un autre point commun, on en parlera dans quelques minutes, mais c'est un peu une obsession consciente ou inconsciente pour un élément, l'eau. Vous en avez parlé un peu tous les deux déjà. On en parle quand on revient, mais avant ça on écoute Feu Chatterton, Baisse les armes.
Un soir où je broyais du noir, j'étais seul au milieu d'une ombre. Je me noyais sur les boulevards quand elle a surgi dans mon ombre. Elle m'a dit, la rumeur court, que la mort nous suit au sommet. Elle m'a dit, la rumeur court, et toi tu devrais faire comme elle. Des kilomètres et des kilomètres à essayer d'être un autre que moi. Des kilomètres et des kilomètres à aller, à ne rien reconnaître. Des mois et des mois à cavaler, à courir à ma perte. Baisse un peu les armes, laisse venir les larmes, que tu redoutes la grâce t'attend, là à bout portant, au bord de la route. J'ai fait comme si tout allait bien, je n'ai pas plié genoux. J'ai fait comme si ce n'était rien, et j'ai rendu les coups. Puis j'ai fait scintiller l'armure pour qu'on ne me voie jamais faible. Avant qu'apparaisse ma blessure, je m'en vais sous un autre ciel. des kilomètres à essayer d'être un autre que moi. Des kilomètres à me fuir pour ne pas reconnaître cette voix là au-dedans. Maintenant, je l'entends. Baisse un peu les armes, laisse venir les larmes que tu redoutes. La grâce t'attend là à bout portant au bord de la route. Baisse un peu les armes, laisse venir les larmes. Ouvre la main, la grâce t'attend.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie de Julia Kerninon et Victor Malzac. Je me suis posé une question en écrivant l'émission. Comment vous aimeriez être qualifié romancier, poète, écrivain, écrivaine? Je ne savais pas quel mot choisir.
Bah, pour ce livre-là, poète, j'imagine. Mais sinon, probablement que... Écrivaine, c'est le mot qui recouvre le mieux, ou dit autrice. En fait, il y a une différence entre les deux. Théoriquement, écrivain, écrivaine, ça désigne ce qu'on est au moment où on écrit. Et l'auteur et l'autrice, c'est ce qu'on est dans un moment comme ça, le moment de l'après-livre.
Donc,
c'est
quand on a publié. Et que, voilà.
L'auteur ou l'autrice, c'est la figure publique.
Oui, c'est ça, c'est la figure d'autorité.
C'est ça.
Et vous, Victor Malzac, poète, ça vous va?
En fait, la plupart des gens ils disent que je suis poète, même quand je sors des romans, mais moi je préfère le terme d'écrivain parce que ça remet au centre justement la pratique scripturale tout simplement, et donc ça rappelle que c'est un acte aussi, que c'est un geste avant d'être une posture ou une mise en scène. Donc c'est aussi rassurant pour moi de dire écrivain, j'ai l'impression de faire quelque chose.
J'ai bien fait de poser la question. Très bien. Julia Kerninon, dans votre recueil, vous avez une obsession pour l'eau. J'en parlais tout à l'heure. Vous évoquez un projet littéraire autour de l'eau. Vous racontez un moment où vous avez fait tomber un livre, celui de Kev Lambert, dans votre bain. Bah, ça m'a bien fait rire, on l'a reçu ici, Kev Lambert. Vous décrivez l'amour que vous avez pour vos enfants comme un amour torrentiel. L'eau, c'est votre élément.
Je sais, je me baigne jamais, je déteste ça, ce qui est honteux pour une Bretonne, mais je j'aime pas trop être immergée, parce que la mer, on sait jamais où est le fond, et ça c'est vraiment trop flippant. Mais l'eau, c'est un élément très féminin, je trouve, et ça c'est rassurant pour moi. Et puis il y a aussi le fait que ça, c'est une rareté, que c'en est de plus en plus une, donc c'est presque sacré l'eau. Il y a un truc très émouvant dans ce truc-là.
Et pour vous, Victor Malzac, parce que alors, vous aussi, vous parlez beaucoup d'eau, mais l'eau dans votre livre, elle n'a pas du tout la même valeur. C'est une eau, c'est l'eau des égouts, le chlore de la piscine, c'est une eau jaune, c'est une eau putride, et en même temps, c'est l'eau aussi de la lessive.
Oui, c'est de l'eau sale, et c'est de l'eau qui revient à la terre aussi. Alors après, Lessive est sorti en même temps qu'un roman, et les deux fonctionnent en tandem, en fait. Lessive et le monstre mur, et dans le monstre mur, l'eau, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça a été pensé aussi. Dans le monstre mur, c'est l'eau qui sauve, puisque c'est la mer. Le personnage veut aller à la mer et quitter l'endroit où il est bloqué, alors que dans Lessive, c'est l'inverse, c'est l'eau qui tue, donc il retourne à la terre, plutôt. Il y a beaucoup de passage dans les cives où mon personnage cherche à enterrer des choses, à prier devant les choses enterrées, à retourner à la terre plutôt qu'à l'eau, qui a du coup tué
qui
mon
donc
oncle.
Une autre... Oui, donc, voilà, c'est pour ça. C'est pas la même valeur.
Ça n'a pas la même valeur dans les deux livres, et je trouvais ça intéressant, cette ambivalence aussi, qui est le truc, c'est Bachelard qui dit ça de l'eau, que ça peut se retourner à tout moment et que c'est insaisissable. Donc on peut lui faire dire une chose et son contraire.
Julien Carninon, j'aimerais qu'on parte tout de suite au Québec pour retrouver Katia Courteau de la librairie Le Port de Tête à Montréal. Bonjour Katia.
Bonjour.
Alors, vous avez été particulièrement émue par Coquille, le recueil de Julia Carninon, j'allais dire Katia Courteau. Mais c'est...
Oui, effectivement, émue. Alors oui, bonjour Julia Carninon. C'est le mot émue, c'est tout juste. Je vous ai lu avec un immense plaisir. D'abord, votre très beau titre, Coquille, écrit au pluriel, annonce déjà que votre œuvre prendra plusieurs chemins et va se déployer devant nous comme un éventail dont chacune des lamelles est interreliée. Coquille, c'est à la fois ces petites bêtes indésirables qui se glissent dans l'écriture à notre insu, mais comme le dit si bien votre éditrice, dans le mot coquille, on entend aussi le mot gestation. Et c'est bien de ça dont il est question, la gestation de l'écriture et son rapport à la vie réelle.
Et l'écriture de Julia Carninon vous a donné envie de nous lire des passages à voix haute, Katia.
Oui, car vraiment vos mots très juste et d'une netteté lumineuse m'ont beaucoup touchée. J'y ai vu, entre autres, les difficultés de faire cohabiter la mère, l'écrivaine, la femme. Par exemple, lorsque vous écrivez ceci, et c'est très beau, « Je dois écrire la tête froide et aimer mes enfants d'un amour torrentiel. » C'est une dualité qu'il y a là-dedans qui est très forte et qui peut paraître difficilement conciliable. Mais ce qui est formidable, c'est que vous montrez aussi les possibles inhérents à cette réalité lorsque vous écrivez aussi ceci. La structure, la patience, l'invention, autant de choses qu'être une mère m'a appris. Vivre avec de petits enfants m'a fait retraverser toute l'histoire de l'apprentissage du langage, ce que c'est de saisir la notion même d'écriture, l'idée bouleversante que la réalité peut être gravée. Les enfants m'ont montré la désobéissance, la remise en question de l'ordre des choses, la rébellion.
Alors, Julia Carninon, vous avez souvent posé la question, en effet, de la compatibilité, on en a parlé tout à l'heure, entre maternité et écriture. Et c'est ce qui vous a plu aussi dans ce recueil, Katia Courteau, si j'ai bien compris.
Oui, c'est vrai que c'est des éléments qui m'ont vraiment, vraiment interpellée. Et aussi, j'ai été très touchée par toute l'ampleur de ce que vous questionnez, en fait, tout au long de votre livre. Je vais être habitée longtemps par ce livre, Julia Carninon. C'est une mine de réflexion sur l'acte même d'écrire que vous nous offrez aussi. Mais au-delà de ça, vous le faites de façon très personnelle. Il y a une forme de mise à nu de votre quotidien de femme, de mère et d'écrivaine. On en parlait tout à l'heure. Nous sommes à la jonction de l'essai et du récit de l'intime. Et vous avez choisi la poésie comme forme littéraire cette fois-ci. Une poésie très libre et très narrative, parfois en vers ou en prose, à laquelle j'ai tout de suite été sensible.
Et vous aviez une question, Katia, sur ce sujet, justement, pour Julia Carninon.
Oui. Je me suis demandé, est-ce pour pousser davantage l'objet de la création, puisqu'il est question de création, de gestation, est-ce que c'est pour pousser l'acte créatif que vous avez fait le choix de la forme poétique pour ce livre?
Merci beaucoup, Katia, pour tout ce que vous avez dit, ça me touche beaucoup. C'est le castor astral qui m'a proposé de faire un texte poétique. J'écrivais de la poésie il y a très longtemps, mais j'avais arrêté. J'étais prise par la prose, pour le dire simplement. Et donc, ça a été la possibilité de replonger dans cette forme-là que je n'avais pas osé utiliser depuis longtemps. La poésie, ce que je trouve... Déjà, moi, j'aime écrire dans un maximum de genres possibles. Tant qu'on peut faire du texte, tout m'excite, à vrai dire. Et la poésie, ce que j'aime bien, c'est que... Il y a à la fois la concision et l'ellipse. Quand on écrit un roman, il faut presque combler tous les blancs, faut que ça se succède, faut une structure. Et la poésie, c'est une structure qu'on peut beaucoup plus inventer, on peut faire des formes plus courtes. Et en même temps, c'est un grand défi aussi, parce que dans le roman, on peut mettre des ventres mous s'il y a besoin, alors qu'en poésie, il faut que tous les mots soient au bon endroit. Donc c'était un exercice auquel j'ai été très heureuse de me frotter de nouveau.
Effectivement, tout à l'heure, vous parliez de le plaisir de jouer avec la syntaxe. Et là, dans la poésie, vous y arrivez aussi très bien. C'était un bel endroit pour explorer tout ça et vivre un grand plaisir d'écriture, j'imagine.
Ouais, c'est trop rigolo à faire.
Merci. Bah écoutez, merci beaucoup, Katia. Merci.
Merci à vous.
Je me tourne vers vous, Victor Malzac. Comment vous qualifieriez justement, vous, cet objet lessive? Est-ce que c'est vous dites, un poème narratif? Comment vous l'appelez? Est-ce que vous posez la question?
Oui, on s'est quand même posé la question avec le Castor Astral, dans le cas où il y a eu deux livres particulièrement. Cela dit, quand moi j'écris d'abord, je ne me pose pas cette question. J'écris d'abord comme je veux, parce que j'ai l'impression, quand je suis seul, quand ce n'est pas encore un livre, que personne n'a le droit de me dire ce que c'est ou ce que ça n'est pas, d'une part. Et d'autre part, ce que je vais dire là n'est pas forcément vrai. Il peut y avoir plein de... C'est aussi la réception qui décide, parfois. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on le voit dans l'histoire de la littérature, des textes changent de genre, j'ai envie de dire, au fil du temps, et je trouve ça magnifique. Donc moi, mon but, c'était principalement de décevoir certaines attentes liées au genre à notre époque donnée, pour peut-être plus de fécondité plus tard, pour faire un petit coucou de la main dans 250 ans, quand ils verront peut-être ce livre, si j'ai de la chance, et qu'ils se diront, ouais, à l'époque il appelait ça poésie, mais en fait, aujourd'hui ça pourrait être un roman ou du théâtre, enfin, peu importe.
Et inversement avec votre roman.
Et inversement avec le roman. Dans tous les cas, le but de Lessive, c'était de proposer quelque chose d'horizontal et à l'imparfait, qui est quand même les deux tendances générales du genre romanesque, parce que ça n'était pas beaucoup fait et parce que je voulais faire entrer comme ça une nouvelle façon de lire de la poésie, du moins essayer. Et dans le roman, c'est l'inverse, j'ai essayé de faire quasiment des versets des fois, d'arriver à quelque chose de plus contemplatif peut-être, de moins narratif justement. Et l'idée, c'était comme ça de déjouer deux attentes et de voir si les gens étaient contents ou pas.
Mais vous pensez au lecteur quand vous écrivez ?
Mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. On aimerait ne pas y penser, mais en fait, le lecteur modèle, il est là. On imagine quelqu'un qui comprendrait absolument tout. Et sans ce lecteur modèle, je ne sais pas comment on ferait, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'on arriverait à écrire, puisque c'est en trichant et en jouant avec cette attente-là qu'on arrive à proposer quelque chose, je pense.
C'est qui le lecteur modèle, Julia Carninon, pour vous ?
Je sais pas si je pense à un lecteur modèle. J'ai du mal à appréhender exactement à quel point je suis assez précise ou pas assez précise quand j'écris. Des fois, je prends trop de précautions. Mais je pense pas à ce que moi, j'aimerais lire complètement, mais je pense au fait qu'il faut que ce soit une expérience de lecture agréable. Pas comme un bonbon, mais il faut que le texte, on puisse s'en saisir, rentrer dedans. On peut torturer un peu le lecteur, mais je pense à... pas à son confort, mais à sa fluidité dans le texte. Je fais attention à ça. Moi, j'aime bien lire des trucs vraiment très, très chiants, comme James Joyce. J'aime beaucoup vraiment un bouquin où il y a un seul paragraphe sur 600 pages, c'est tout à fait ma came. Mais ce que j'admire, par exemple, dans un roman, c'est quand la structure, les choses sont mises au bon endroit et que en tant que lectrice, je me promène dedans en me faisant ricocher comme dans un flipper et je me dis « Putain, c'est bien foutu !» Bon, c'est ça que j'essaye de faire. Je suis incapable de savoir, en prose comme en poésie, si j'y arrive, parce que c'est quasiment impossible de lire ses propres livres. Et pourtant, il n'y a aucun livre qu'on lit davantage que les nôtres, tout le temps qu'on les écrit, je crois.
Mais à force de les lire, on ne les lit plus, on ne sait plus les lire.
C'est ça, on ne peut pas vraiment les voir. Et c'est aussi à ça que nous aident les éditeurs qui, eux, sont nos yeux dans ce genre de moment. Mais je pense à ce que je trouve bien, à ce que je trouve digne et à ce que donc je voudrais moi aussi réussir à faire.
Alors j'aimerais qu'on entre vraiment, on a un peu commencé à le faire dans vos ateliers d'écriture à l'un et à l'autre, puisque pour vous deux, le travail de composition littéraire est un travail manuel, concret, proche de la maçonnerie, ce qui nous donnera l'occasion de parler, de reparler de vos éditeurs aussi.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour. Qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne. N'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant. Quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme. Ce fils de rien, ce tout est pire. Cette crapule au doux sourire. Ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste. Que la justice fasse le reste. Surtout qu'il soit fidèle. Surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon. Qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne. Si la photo est bonne. Si la photo est bonne.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Barbara, si la photo est bonne. Et nous sommes toujours en compagnie de Julia Kerninon et Victor Malzac. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassen.
Julia Kerninon, vous écrivez « Je sais ce que je veux écrire, je ne sais plus le faire ». Est-ce que ce n'est pas bon signe de devoir toujours réapprendre à écrire ?
Si, si, sûrement. À la fin de l'écriture d'un livre, on se sent comme si notre élastique avait été coupé, on n'arrive plus à s'arrêter. Et puis quand on reprend un texte, faut tout réapprendre. Et puis chaque texte a sa propre identité, énergie, loi. Enfin, avoir fait des livres ne garantit pas qu'on réussira à en faire d'autres. Et plus on fait des livres, et plus c'est une prise de risque dans l'absolu, je trouve.
Pourquoi ?
Parce que le premier livre qu'on fait, on le fait comme un innocent. On le fait dans le silence et l'anonymat de notre chambre, en désirant probablement la publication pour beaucoup d'entre nous. Et on ne se rend pas compte qu'une fois qu'on aura passé cette porte, tout sera différent. Et puis le premier livre qu'on écrit, vraisemblablement, on déverse dedans une grande partie de la richesse du matériau qu'on trimbalait avec nous, sans nécessairement que ça veuille dire que c'est un texte autobiographique, mais on est plein comme ça. Et en fait, de faire des livres les uns après les autres, il faut repousser ses limites. Et puis aussi, d'un point de vue technique, je trouve, c'est très... On progresse et donc on veut progresser. Un jour, on apprend à mieux faire les chapitres, ou on apprend à faire plus de personnages, ou on progresse sur les dialogues. Et à chaque livre, de façon consciente ou pas, on se fixe un nouveau défi, parce que sinon... Moi, en tout cas, je ne trouve pas ça très intéressant de faire des livres qui auraient tous le même format, par exemple. J'ai envie de progresser dans ma pratique.
Et vous, Victor Malzac, vous avez l'impression de progresser ?
Ah oui, bah heureusement, sinon, ce serait embêtant quand même. Je rejoins ce qui vient d'être dit. J'ai l'impression personnelle que plus le temps passe et plus il y a une pression aussi. Parce que les livres ont été faits, donc il faut réussir à aller plus loin. Et en même temps, c'est d'une grande jouissance, c'est d'un grand enthousiasme de se dire qu'on peut aller... Parce que moi, j'ai le sentiment, au contraire, que plus ça va, et plus je peux m'autoriser à faire des choses que je n'aurais pas pu oser faire il y a quelques années. Après, ça dépend des pratiques de lecture, mais moi, dans mon cas particulier, mon but, et je pense que c'est le jeu avec le lectorat qui est le mien, c'est de les mettre en inconfort le plus possible. Et je sais très bien qu'un texte comme celui que je viens de sortir, Lessive, est plus gênant que les textes que j'ai faits il y a 5 ans, par exemple. Et ça me plaît, de me dire qu'avec le temps, j'ose plus aller vers des zones de l'esprit, du corps aussi, qui sont plus risquées, plus difficiles, qui demandent plus de, aussi plus de technique, tout simplement.
Et est-ce que ça va aussi avec une forme de courage de déplaire, par exemple? Est-ce que c'est aussi peut-être le premier roman où on veut absolument plaire, et puis au bout du deuxième, troisième, quatrième recueil de poèmes, peut-être qu'on s'en moque un peu plus, non?
Oui, tout à fait. En fait, il y a aussi, j'ai l'impression, quelque chose... le premier roman, on est toujours sympathique avec le premier roman. En effet, parce qu'on est innocent, les mains sont blanches, on arrive, on n'a rien fait. Donc c'est bien, un premier roman. C'est le deuxième qui, j'ai l'impression, commence à montrer des... On prend le risque de décevoir les gens qui nous aimaient peut-être pour les mauvaises raisons la première fois. Enfin, là, se crée vraiment une ligne. Il va falloir tricher, jouer avec, la développer, la reculer. Enfin, il va falloir prendre un risque. C'est comme un carrefour et on a choisi une avenue. Et on y va, et pour retourner, c'est beaucoup plus compliqué. C'est le sentiment, en tout cas, que j'ai, moi.
C'est aussi un exercice de lucidité, finalement, Julia Carninon. De savoir où on en est, parce qu'est-ce qu'on sait vraiment?
Non, on ne sait pas. On relit d'autres livres pour se resituer. C'est quand même quelque chose, peu importe le livre qu'on commence, peu importe le projet qu'on a en tête, au départ, c'est une immense page blanche. Mmh. Quand les gens ils disent le truc de la page blanche, ils pensent qu'on va être bloqué un jour. Mais en fait, c'est au départ toutes les décisions qu'il faut prendre. Écrire un livre, ça n'est que prendre des décisions. Décider du temps d'énonciation, du nombre de personnages, de la taille du livre, de la structure du livre. Est-ce qu'on va raconter les événements dans l'ordre dans lequel ils se sont réellement produits? En tout cas, lors du récit, ou est-ce qu'on va au contraire essayer de ruser avec ça? Cette immensité de possibles, elle donne le vertige et elle nécessite beaucoup de responsabilité. Et ça, c'est assez excitant de délimiter son espace, de délimiter un espace différent à chaque fois.
Vous faites des plans, par exemple?
A posteriori.
Ah.
Quand j'ai quasiment fini le texte, je surligne en couleur pour vérifier la répartition des matières, par exemple, des dialogues par rapport aux descriptions. Je fais un peu des plans parce que j'écris tout en bordel. Enfin, même les romans, tout est dans le mauvais ordre. Donc après, je vérifie, genre, ah merde, alors lui, il est mort au chapitre 3, mais en fait, il était vivant au chapitre 7, donc il faut peut-être que je déplace. A posteriori, je vérifie mes conneries, ouais. Mais au départ, non, au départ, je fais pas de plans parce que je sais pas ce que je veux faire.
Et vous, Victor Malzac?
C'est un peu pareil, pas pour les mêmes raisons, parce que moi, ce que j'écris, ça fonctionne, je pense. Hein. On n'est jamais bon exégète, mais moi, j'essaie d'écrire dans une logique d'épisode. D'épisodes médiévaux presque, comme Chrétien de Troyes. C'est un auteur que j'aime énormément, par exemple, ou Rabelais, quoi. Un chapitre, il se passe quelque chose. Et donc, des fois, ça peut être interchangeable d'un chapitre à l'autre. Et à la fin, la cohérence arrive pour donner pour pas donner l'impression qu'on a fait n'importe quoi, mais pour lier comme ça les épisodes et leur donner le plus d'intensité. C'est plus une question d'intensité. Il faut qu'ils soient au bon endroit et pas forcément qu'ils soient cohérents d'un point de vue linéaire. Et ça, c'est peut-être plus difficile. Mais moi, j'écris d'abord le contenu et c'est après que ça change pour que chaque phrase... D'ailleurs, c'est dans Coquille de Julia Carninon, il écrit ça à un moment. Une bonne phrase n'est qu'une phrase au bon endroit. Ouais. Et je trouve ça très juste.
Quel est le travail de votre éditeur Victor Malzac, sur un livre comme Lessive, quel a été son rôle?
Alors, un livre comme Lessive, ça a été plus un travail graphique, parce que c'est posé la question de comment rendre horizontalement mes phrases, parce que ce sont des phrases très longues. Alors, on a essayé de tricher avec les marges pour qu'il y en ait le moins possible, et on a triché avec les espaces pour donner l'impression qu'il y aurait un texte caché sous le texte. Donc, les poèmes commencent en milieu de page. Comme ça, en surimpression, on a l'impression qu'il y a un palimpseste derrière. Comme si j'avais arraché une partie du texte et que ça commençait de manière un peu arbitraire.
Avec les virgules, comme ça.
Oui, et sans majuscule.
Et sans majuscule, il y a un texte qui précède le texte, quoi.
Oui, exactement. Comme ça, c'est un immense texte avec des secrets, des choses qui ne sont pas dites, qu'il faut refaire soi-même, quoi.
Victor Malzac, j'aimerais qu'on accueille justement Thomas Aussert de la librairie L'Amandier à Puteaux.
Bonjour.
Thomas, vous avez été épaté par le recueil de Victor Malzac.
Eh bien oui, Lila, là je dois dire que j'ai été chamboulé hein, en lisant ce texte qui ne ressemble pour le coup à aucun autre. Moi je me suis pris votre logoré comme une claque en pleine figure. Vous lire a été comme rentrer dans le flux de pensée à la fois d'un nouveau-né, d'un enfant et d'un adulte. Écouter aussi son effroi et son rejet primaire du monde. Le tout forme un texte expérimental, assez trash, mais écrit à la corde, à la cadence répétée, précise et bien balancée, malgré un certain aspect nihiliste. J'avoue que moi j'ai été sidéré par la violence de certains passages et que j'ai eu quelques frissons à vous lire. Bon après moi j'aime bien avoir des frissons, donc c'est bien. Vous ne laissez pas le lecteur indemne, mais votre texte reste en tête, alors, comme celui de Julia, c'est vrai. Et vraiment là, je peux le garantir. Alors nous, ce qui est sûr, c'est qu'on vous recommandera à l'amandier, surtout aux lecteurs qui aiment les littératures laboratoires déglingos, voire assez punk, je dirais, pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, et puis ceux surtout qui ont envie de découvrir une nouvelle voie.
Ça vous fait rire, Victor Balzac.
Merci beaucoup, en tout cas. Je rougis.
Et vous aviez des questions, Thomas?
Oui, j'avais plusieurs questions. Je dois dire que c'est un texte qui suscite pas mal de questions. J'ai vu que vous aviez écrit, on a parlé d'autres textes poétiques et puis des romans, alors que j'ai pas encore lu, mais voilà, le temps m'a manqué, mais je vais m'y mettre. Je me demandais, moi, ce que représentait la poésie pour vous, et aussi en quoi cela différait du roman, et à la limite, qu'est-ce que vous permet la poésie ?
En fait, c'est tout est une question, pour moi, hein, de réception. Je ne me pose pas la question quand j'écris, mais la question se pose avec les éditeurs, les éditrices, parce que le public de la poésie est un public plus restreint, mais aussi un public qui n'a pas froid aux yeux et qui ose lire beaucoup plus, peut-être. Pour moi, la poésie, du moins avec le Castor Astral, ici, c'était une entreprise de libération, de se permettre de dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire ou qu'on n'ose pas dire. C'est ça que je ressens. Le roman, c'est pas que c'est différent, c'est que le public cherche autre chose. Il ne cherche pas cette intensité-là avec de la même manière.
Vous êtes d'accord avec ça, Julia Carninon ?
Oui, il y a une certaine idée du lectorat de ce que doit être un roman, alors qu'effectivement la poésie... Alors qu'un roman, ça peut être très expérimental aussi, mais c'est moins acceptable. Et donc il faut fonctionner avec ça, effectivement. Alors qu'en poésie, on peut être plus bizarre, on peut faire toutes sortes de choses, ça va être beaucoup plus accepté, je comprends ça. De la même façon qu'une bonne phrase est une phrase au bon endroit, un bon livre est parfois un livre catégorisé de la bonne façon, ou au contraire, placé dans une autre catégorie que la sienne, et du coup c'est un outsider flamboyant.
Thomas, vous aviez une autre question pour
Oui, c'est une autre question. Enfin, en y repensant, je vais un peu la reformuler. Mais, parce que moi, quand je vous ai lu, j'avais pas mal de musique en tête. Enfin, j'avais ma propre bande-son. Et j'ai un peu une double question. Je me demandais, d'une part, si vous aviez déjà lu, déclamé, mis en scène ou en musique votre texte. Si vous avez déjà pensé à une bande-son. Ou à la limite, un peu par extension, est-ce que vous avez de la musique pour écrire? Parce que, enfin, moi, il y avait plein... Enfin, c'était... Voilà. J'avais plein de choses en tête.
Ah bah super, ça me fait plaisir parce qu'en effet, les textes, ils sont écrits avec une playlist que je prépare à l'avance.
D'accord.
Spécifique, quoi, pour chaque livre à ses musiques. Là, en l'occurrence, c'est beaucoup de rap. C'est beaucoup de rap français. Bah, NTM, PNL, Julius aussi, l'album de SCH que j'adore. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de la house, de la techno, Kraftwerk. Oui. Aphex Twin, Crystal Castle, c'est partie du truc que j'écoute le plus, et des fois des musiques d'internet qui n'existent pas.
D'accord.
Des trucs, voilà, c'est des montages, c'est de la Vaporwave, du Yabujin, enfin c'est des trucs qu'on trouve voilà, que sur SoundCloud, 10 personnes écoutent ça. Mais moi j'aime bien, parce que ça me fait ressentir des émotions que j'ose pas ressentir.
Et si vous deviez là, le mettre en scène ou en musique, ça serait ce type de musique que vous utiliseriez ou vous prendriez autre chose ou...
Alors, ça m'arrive souvent de faire un travail de performance, mais j'en ai fait une la semaine dernière à la Maison de la Poésie avec Rubinsteiner. Oh. Et Rubinsteiner, il a ce talent d'improviser, quoi. Il prépare des sons et sur le moment, selon ce qu'il ressent, il va fort ou pas fort. Et on marche bien ensemble, on va en faire plusieurs là, dans les mois à venir. J'ai l'habitude de déclamer les textes. Et bon, des fois, ça fait peur aux gens. Hein.
En plus, vous avez une bonne voix, donc c'est quand même...
Oui. Des fois, je les regarde dans les yeux et je parle très lentement ou alors très fort. Et ça peut être impressionnant pour les gens qui n'aiment pas ou qui ne connaissent pas. Quoi.
Je vais regarder sur Internet, je vais suivre les dates.
Écoutez, merci Thomas. Victor Balzac, vous disiez dans une remise de prix, je me demande si ce n'était pas au prix de la vocation, que votre famille ne comprenait pas toujours tout à ce que vous faisiez. Est-ce que ça s'est arrangé?
Oh, c'est un peu dur de dire ça. De toute façon, pas forcément besoin de comprendre. Ce n'est pas qu'une histoire de compréhension, c'est une histoire de curiosité et d'amour aussi. Moi, je ne comprends pas forcément ce que font mes parents ou ce que fait ma sœur. Ça ne m'empêche pas de m'intéresser à ce qu'elles font et ce qu'ils font.
Et là, c'est le cas.
Oui, bien sûr. Je me sens soutenu dans ma sphère familiale. Ça va au-delà juste de je lis des romans expérimentaux ou pas.
Enfin, oui, c'est ça. C'est pas juste vous êtes le bizarre de la famille.
Non. Alors, si, c'est quand même spécial, mais... Heureusement qu'on s'entend bien.
Ah bon, tout va bien.
Thomas,
vous aviez une question pour Julia Carninon sur ce sujet.
Oui, Julia. Bah alors moi, j'ai trouvé, comme tout à l'heure, Katia, votre texte vraiment très beau, très intime. C'est exactement la mise à nu, c'est exactement ça. Et je me demandais, vu que vous vous livrez beaucoup, Qui dans vos proches a lu votre texte et comment est-ce qu'ils l'ont accueilli ?
Je fais généralement lire mes livres avant publication à mes parents, oui. Parce qu'ils sont souvent des personnages. Enfin, c'est comme ça m'est arrivé d'écrire des textes autobiographiques, je ne peux pas les... Et mon mari, évidemment. Et maintenant, un de mes gamins essaye de jeter un œil aussi. Ah. J'avais pas pensé que ça arriverait aussitôt. mais pas sur ces textes-là, en l'occurrence, sur autre chose. C'est un sujet délicat parce que d'un côté, on ne peut pas faire œuvre littéraire en se souciant absolument des émotions de la famille. Enfin, il y a un moment, c'est quelque chose d'extérieur qu'on fait, c'est une vie professionnelle. C'est comme si on avait un avis sur ce que nos conjoints font au travail. Enfin, il y a un moment, il y a quand même un côté vie publique, vie privée. Et en même temps, si on embarque des proches à nous, si on parle d'eux sans les consulter, je trouve que ça n'est pas décent non plus. Donc il faut les consulter. En général, on m'accorde toute liberté dans mon cercle proche. Et les rares occasions de censure sont très intéressantes.
Et la censure, elle arrive à des endroits où vous vous y attendiez ou pas du tout ?
Dans le cas de mes parents, en général, oui. C'est des trucs que je comprends, que peut-être je me sers... Moins maintenant, mais il y a quelques années, sur un texte en particulier, j'avais fini par passer par ce vecteur pour dire des choses que j'arrivais pas à dire autrement, je pense. Mais c'est aussi l'occasion de dire toutes sortes de choses très positives. Mmh. Et mon mari, c'est plutôt... des fois, je me dis « Oh là là, je suis trop dure. » Et lui, il dit plutôt « Tu vas pas assez loin. » Un jour, il y avait des amis qui parlaient du fait que je parle de lui dans des textes et il disait « Mais elle dit pas la vérité. » Et je pensais qu'il voulait dire que je mentais sur lui, que je disais des horreurs sur lui. Je pensais vraiment que c'était ça. Et il dit « Non, elle embellit les choses. Des fois, c'est pire que ça. » Ça, c'est risqué de me dire des choses comme ça.
C'est un encouragement, oui, bien sûr. Écoutez, merci Thomas Hauser. On vous retrouve tout de suite pour vos conseils de lecture. Mais d'abord, on écoute Asfar Shamsi, 2006.
Je mettais des faces B dans ma chambre, comme si c'était Planète Rap. Même les murs, ils en avaient marre, mais j'avais des trucs à dire. J'avais les émotions, mon cœur, j'avais de la peine au fond. Je rappais avec la veine au front. Depuis j'ai grandi, nouvelle douleur sous les habits. Je serre les dents, les canines, je le fais de façon mécanique. Tellement c'est fluide, ils croient que c'est facile. Quand y'a l'amour, y'a la magie. La musique c'est que pour la famille. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. J'ai pas de lunettes de soleil, j'ai rien à cacher. Ni la tristesse, ni le manque de sommeil. Je suis venu cracher ce que j'ai dans l'abdomen. Je suis sincère, je suis pas malhonnête. On grandit, on les jette pas nos rêves. Et Youssef il tient sa promesse. C'est la famille avant l'oseille. Let's go, let's go. Je suis pas au studio comme à l'usine. Si je me sentais moins seul, je ferais sûrement pas de la musique. Et tu brilles, tu brilles, tu brilles. J'écoute l'amour, j'écoute Pacifique et j'écoute Extra Lucide. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Etc. Nous sommes toujours en compagnie de Julia Kerninon et Victor Malzac. C'est l'heure des conseils lecture de la semaine.
Au livre, Etc. Lilia Hassel.
Et on retrouve Thomas Hauser, notre libraire parisien. Vous aviez un conseil pour nos auteurs du jour, un conseil qui résonne avec l'actualité.
Un coup de cœur pour Téhéran, Paris, 10 km. C'est un recueil de poésie d'une poétesse franco-iranienne, Azadeh Hosseini Maleki, aux éditions Baudelaire. Alors pour elle, hein, qui est née en Iran, qui a été journaliste, qui a connu la censure, En trouvant asile en France, il y a quand même pas mal d'années, elle découvre, bien des années plus tard, la course à pied. Elle voit passer des gens qui courent et c'est une révélation. Alors elle s'entraîne, elle s'inscrit à un 10 km, mais elle apprend qu'elle est malade. Elle décide de faire confiance à son corps et par la poésie, son souffle, sa résilience, guidée aussi par la simorgue. Alors ça j'ai découvert, c'est l'oiseau mythique de la sagesse persane. Elle va courir, écrire et renaître. Alors moi je recommande chaudement ce texte. Il y a un souffle qui est formidable. J'ai beaucoup aimé les poèmes, ils m'ont vraiment beaucoup touché. Ça se lit comme une promesse. Et en plus, ça fait passer vraiment de l'ombre à la lumière. Et on va dire qu'en ce moment, on a quand même pas mal besoin.
Merci Thomas. Julia Carninon, Victor Malzac, est-ce qu'il faut lire de la poésie pour en écrire, Victor ?
La question peut se poser partout. Est-ce qu'il faut regarder des tableaux pour peindre ? Enfin, évidemment qu'il faut...
Il y a des écrivains qui disent qu'ils ne veulent pas lire.
Ah oui, mais pour moi, c'est une grossière erreur. Je peux rien faire pour eux. C'est-à-dire que... Mais Deleuze le disait déjà. Je me cache derrière Deleuze. Oui. Je ne vois pas comment on peut pratiquer une technique. Je ne vois pas comment... La littérature n'échappe pas... Ce n'est pas un monde sacré qui échapperait aux arts de la technique non plus. Ça n'a rien à voir avec j'aime ou j'aime pas un livre. Il y a juste des manières de faire. Le texte est un matériau linguistique. Déjà, il faut connaître la langue, ce qui n'est pas forcément évident. Il faut connaître les possibilités de la langue. Donc, on parlait de rap hors antenne, mais ça fait partie des choses qu'il faut aussi écouter, je pense. Je pense qu'il faut connaître comment on parle aujourd'hui. Il faut ouvrir grand les oreilles et écouter ce qui se dit autour de nous. Et j'aime beaucoup, moi, les rumeurs. J'aime bien les rumeurs, les mots, les refs, les trucs. Et en plus, j'ai la chance de ne pas être trop âgé, d'encore avoir des prises avec...
Je croyais que vous alliez dire, j'ai encore une bonne ouïe.
Donc moi, je me sens très chanceux de pouvoir encore à peu près comprendre les refs, des trucs, des TikTok et compagnie, parce que dans quelques années, peut-être que je ne pourrai plus, mais ce sera quand même intéressant. Mais pour moi, il est impensable qu'un écrivain ne lise pas d'autres livres. Enfin...
Je vais vous demander une petite recommandation dans deux minutes, mais d'abord, je demande à Julia Carninon, est-ce que vous êtes une grande lectrice de poésie ?
Non, je ne suis pas une grande lectrice de poésie. Je suis une grande lectrice, mais pas spécifiquement de poésie. Je lisais dans mon domaine jusqu'ici, voilà que je m'aventure ailleurs. Donc, j'en ai lu beaucoup ces temps-ci, grâce au Castor, mais je relis souvent les mêmes textes de poésie. Je relis les Buzz Day Letters de Tate Hughes, qui vraiment m'ont bouleversée depuis 20 ans, je pense. Requiem de Rainer Maria Rilke. Ça, c'est des choses que j'ai pas fini de... d'avaler presque, ouais.
C'est quoi la première qualité, selon vous, pour écrire, pour devenir écrivain ?
L'endurance. Après, il y a le fait d'aimer. Enfin, en fait, c'était ça dans votre question. Est-ce qu'il faut lire ou pas des livres ? Mais la question, c'est comment résister ? qui peut avoir envie d'écrire des livres et ne pas être à la fois profondément amoureux de tous les autres livres ? On fait toujours cette blague sur le fait de lire le dos des boîtes de céréales, mais on pourrait aussi parler du fait de lire des Agatha Christie mal traduits, de lire des livres qu'on déteste, mais il y a un truc qui est bien dedans, de lire des livres... Là, je lisais À quatre pattes de Miranda July, et vraiment, je l'ai lu en me disant « Putain, j'ai passé ma vie à lire des livres, et je n'en reviens pas du fait qu'il y a toujours des nouvelles choses auxquelles je n'ai pas pensé, des choses techniques à faire, une façon de faire le livre que j'avais jamais vue avant. C'est merveilleux !»
Et pour vous, Victor Malzac, la qualité première ?
Il y a deux choses pour moi. C'est d'abord la curiosité, parce qu'il faut quand même s'intéresser à l'écriture, mais à l'art, à la vie. Il faut avoir un œil intéressé et enthousiaste, je pense, ouvert aux choses. On ne peut pas écrire en étant certain de ce qu'on va y trouver, en voulant dire ce qu'on veut dire à l'avance. Ça, je n'y crois pas, personnellement. Donc, il faut beaucoup lire les autres.
Écoutez, merci Thomas Hausser. Avant de finir, deux choses, un petit message pour les auditeurs de France Inter. Il ne leur reste plus que deux jours pour s'inscrire comme juré du Livre Inter, présidé cette année par Laurent Mauvignier. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site. Et j'aimerais recommander moi aussi un recueil de poèmes, ou plutôt un poème narratif du grand auteur tunisien Tahar Bekri. Ça s'appelle « Mon pays, la braise et la brûlure ». Et c'est un poème qui mêle hommage au pays réel, la Tunisie, et adresse au pays intérieur. Il termine son recueil par ces mots. « Il y a des êtres comme des rayons de soleil nécessaires à la vie. Ouvre le jour pour leur dire, le monde est une merveille. » Merci donc à nos rayons de soleil de ce samedi. Julia Carninon et Victor Malzac. C'est la fin de cette émission. Je recommande vivement vos ouvrages, tous deux parus aux éditions Le Castor Astral. Coquille de Julia Kerninon, une plongée lumineuse et concrète dans les coulisses de la création. On apprend que l'écriture est un mur que l'on monte pierre après pierre pour tenter de stabiliser la réalité au moins un instant. Et je ne l'ai pas précisé, mais c'est souvent très drôle. Je pense notamment au passage sur l'agent immobilier. Il faut acheter votre livre pour comprendre, mais ça vaut le coup, ça m'a fait beaucoup rire. Lisez aussi Lessive de Victor Malzac, un cri organique, une traversée des parkings et des bassines pour tenter de rembourser cette dette originelle envers la mer et les fantômes. Un texte puissant qui nous rappelle que nous lavons lentement nos erreurs. Je précise qu'Estelle Gap, la programmatrice de l'émission, a été complètement retournée par ce livre, qu'elle a trouvé violent dans le bon sens du terme. On n'en sort pas dans le même état que quand on y est entré, ce qui est quand même un bon point. Merci à nos libraires du jour, Thomas Hausser et Katia Courtot, ainsi qu'à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Jérôme Ragano à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier à la programmation. Je rappelle qu'Au Livre, etc. est une coproduction de la RTBF, la RTS et Radio-Canada. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain pour une nouvelle émission en public depuis le 40e Salon du Livre de Genève.